Bienvenue à tous. Vous écoutez Je suis Lou, le podcast de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Je suis Lou vous emmène au cœur de la forêt boréale, sur les sentiers et les montagnes de Charlevoix, pour partager des conversations inspirantes avec des athlètes chevronnés, écouter les conseils d'experts et surtout s'enthousiasmer pour les anecdotes les plus folles que seuls les ultras peuvent nous offrir. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose une très belle discussion autour du thème de courir la nuit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je suis Lou, la balado de l'UTHC. On vous propose aujourd'hui un nouveau nom. Portrait de Lou devient Je suis Lou, mais surtout un nouveau format de discussion. J'aurai le plaisir d'accueillir à présent non pas un invité, mais deux à trois invités pour échanger autour d'une thématique qui, on l'espère, va parler à un grand nombre de nos auditeurs et toucher toute la communauté. Donc on commence aujourd'hui avec un sujet qui suscite beaucoup de questions, parfois des peurs. Un incontournable pour toute personne qui s'engage sur de longues distances, c'est la course de nuit. Donc on va vous partager des anecdotes, des expériences, vous donner des conseils, mais aussi aborder les défis que peuvent représenter la préparation et l'organisation aussi d'une course de nuit. Donc j'aurai avec moi trois coureurs ultra-trailers qui vont avoir tous, je pense, de belles histoires à nous raconter. Et mais je vais commencer tout de suite par vous les présenter. Là, ils sont tous les trois avec moi à distance. Donc on va commencer avec René Hamel. Bonjour René.
Bonjour, bonjour.
René, donc, qui est une coureuse bien connue au Québec, mais qui aussi, depuis quelques années, coach. Donc, je pense qu'elle va avoir à la fois de belles expériences à nous partager, mais aussi des bons conseils à donner à tout le monde. Notre deuxième invitée vient avec une double casquette, celle d'organisatrice, mais aussi celle de coureuse d'ultra, Marlene Côté, qui est la directrice générale d'événements Arikana et de l'UTHC. Alors, bonjour Marlene.
Bonjour Clémentine.
Et enfin, notre troisième invité, donc, qui est l'organisateur du Défi Everest de la Big Wolf Backyard et surtout un coureur ultramarathonien qui a participé et terminé les ultras parmi les plus prestigieux au monde, donc Yvan Lheureux. Bonjour Yvan.
Allô Clémentine.
Ben, merci à tous les trois d'être présents et de vous prêter, de jouer les cobayes pour ce premier épisode du nouveau format de la balado de l'UTHC. Donc, pour démarrer, briser un peu la glace, moi j'aurais aimé vous entendre sur vos premières expériences, vos débuts, à la fois en ultra, mais et surtout de comment ça s'est passé vos premières courses de nuit. Donc, est-ce que René, peut-être tu voudrais démarrer, parce que je pense que ta première course de nuit, c'était justement à l'UTHC.
Oui, justement, puis c'était la première édition.
Oui.
C'était quand même un peu nouveau dans notre communauté. Mon premier ultra, puis première fois probablement que je courais la nuit en compétition.
Ta plus grande distance avant ça avait été combien, tu te rappelles?
Le tour de l'île d'Orléans, 67 kilomètres, c'est ça. Fait que je m'avais entraînée une fois à Mont-Saint-Anne pour faire une longue sortie à la noirceur pour pratiquer ça. Toute seule à l'époque. Aujourd'hui, peut-être que je ferais ça avec quelqu'un d'autre pour que ça soit un peu plus sécuritaire. Mais c'est ça, cette sortie-là, c'était bien passé. Juste, c'est ça, je l'avais pratiqué. Puis à la course, dans le fond, ça allait super bien. Et puis le départ, ou les premiers 20 kilomètres, ils étaient vraiment roulants. Fait que quand on est arrivé au Haut-de-Gorge, à moitié chemin, il était quand même tôt. Et puis... on avait fait des bons temps, puis je me souviens, j'avais regardé un de mes amis coureurs, puis on s'est dit, hey, la frontale, on n'a plus besoin, là, tu sais, il reste la moitié, puis je sais qu'on a fait ça un peu de, je suis plus sûre de notre temps, mais c'était quand même vite, puis on a décidé de laisser la frontale dans le drop bag, puis on est reparti sans frontale, il faisait beau, fait qu'on continue, puis par chance, moi j'ai fini juste avant la noirceur, mais mon ami, il a fini à la noirceur, sans frontale. Fait que c'était une erreur de se dire, hey, on laisse la frontale dans le drop bag, on aurait dû garder la frontale tout le long.
Mais ça paraît incroyable, en fait, aujourd'hui, d'écouter ça, parce que c'était en quelle année, du coup, ta première fois?
Ça, c'était 2015.
Mais tu sais, ça paraît un peu incroyable pour des gens qui... c'est qui est, ben, en tout cas, qui a un peu moins l'habitude comme moi là, de se dire que vous laissez la frontale dans le drop-back. Puis il n'y avait pas de contrôle à l'époque, Marlene. Est-ce qu'on contrôle maintenant des choses comme ça?
Ben, en fait, l'expérience de René en 2015, c'était la première édition du 125 km l'horaire était différent de celui qu'on a aujourd'hui. L'horaire partait en plein milieu de la nuit, à 2 heures du matin à l'époque, si je me souviens bien. Puis le parcours était même différent aussi. René, ça a changé depuis ce temps-là, mais au début, effectivement, c'était roulant. Les 20 premiers kilomètres, maintenant, le départ est plus technique. Mais maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, on fait plus de vérifications. À l'époque, c'était pas quelque chose qui était, normalisé là, de vérifier le matériel obligatoire. Il y avait du matériel obligatoire qui était demandé, mais il n'était pas vérifié sur les courses québécoises, en tout cas. Donc, on s'était laissé au bon jugement des coureurs et des athlètes, mais effectivement, c'est par l'expérience qu'on apprend aussi des choses, comme René le dit. Puis maintenant, on vérifie le matériel obligatoire. Ça peut être avant de partir, mais aussi sur le parcours pour justement éviter des situations comme celle-là.
OK. Puis toi, René, finalement, tu en avais tiré quoi de cette première course-là? Est-ce que tu avais aimé ça, courir, faire une course de nuit déjà? Comment tu l'avais vécu?
Oui, je l'ai bien vécu. Mais je pense que j'étais contente de finir avant qu'il fasse trop noir, vu que j'avais pas ma frontale.
Oui.
C'était comme une bonne erreur de rookie de pas garder l'équipement obligatoire, ça c'est sûr. Puis c'est sûr que ma préparation était bonne, mais je me rappelle quand même que les derniers 40 kilomètres, j'étais pas mal tannée, puis j'avais mal partout, puis je me disais, ça se peut pas que je continue à courir quand j'ai mal de même. Et je courais plus beaucoup, là, j'étais pas mal rendue à marcher. Après cette expérience-là, ouais, j'avais peut-être mis une pause, puis après, ben, je pense 2 ans après, j'avais refait un 80 km, puis ça l'a renoué avec les ultras.
OK. Tu n'avais pas couru d'ultra pendant 2 ans suite au 125, c'est ça?
C'est ça.
Ah oui, OK. Puis toi, Yvan, est-ce que toi aussi, ton premier ultra, c'était... Enfin, ta première course de nuit, c'était un ultra, puis pas un petit, là, je crois.
Non, c'était le BU 160 en 2014. Ça a fini en queue de poisson. On n'en parlera pas de notre haut-parler. Mais moi, la nuit, c'est un rapport particulier. C'est la partie que je préfère. Faut comprendre que quand j'ai commencé à courir, quand je suis arrivé sur le BU, ma plus longue distance, René, félicitations. Moi, c'était 27 km. Je me rappelle toujours de la tête de Gilles Poulin là, qui brossait des yeux puis qui faisait des tours de tête quand j'ai dit ça en arrivant au BU. Mais la nuit, c'est le moment que je préfère. Et des choses qui m'ont surpris sur le BU, c'est qu'il y a un coureur avec qui j'étais un bout de temps. Il est venu pour allumer sa frontale quand la nuit a tombé. Puis il n'avait pas changé ses batteries. Il était parti pour faire un 160 km de nuit avec des batteries usées. Sa frontale a duré à peu près 1 heure et demie. Puis après ça, poup, ça a coupé. Fait que là, je dis, ben, je vais te piloter. On va arriver. Il dit, j'ai pas de batterie de rechange. J'ai dit, quoi? T'as pas de batterie de rechange? Elle dit, non. Finalement, on est arrivé sur un checkpoint puis il a abandonné. Fait que, tu sais, c'est un peu bête parce qu'on est des petites bébêtes diurnes. Nous, on voit pas la nuit. Mais quand je suis allé faire cette course-là, 80% de mon entraînement s'était passé la nuit. Parce que je couchais mon fiston le soir, il était tout petit dans le temps, il avait 4 ans. Fait que je commençais à courir à 8h30 le soir, puis j'allais courir jusqu'à 11h. Fait que moi, courir de jour, j'avais pas connu ça beaucoup. Je m'étais entraîné seulement 3 mois avant le BU. Fait que la nuit, moi, c'est le moment de grâce, là. C'est le moment d'introspection, de calme, tout ça. Fait que comme j'ai commencé ma carrière de coureur à ce moment-là, ben ça a toujours fait partie de la course, là, cet instant-là, là, la nuit.
Ouais, OK. Et puis, comment tu l'as vécu après toute ta course? Parce que c'est vrai que quand on dit, bah, tiens, c'était mon premier ultra, je fais tout de suite un 160, on se dit, waouh, est-ce qu'il a réfléchi avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui se lance un défi un peu fou? Et puis, mais quand on t'écoute, on a l'impression quand même que tu t'étais super bien préparé, puis tu l'as terminé en plus, donc tu t'étais sûrement très bien préparé.
Ouais, j'ai terminé à l'hôpital aussi, là, avec une rhabdomyolyse, là, mais non, la partie de la nuit a quand même bien été, sauf que, tu sais, sur le BU, il faut savoir que tu peux t'attendre à n'importe quoi. Puis cette année-là, c'est la première année du BU. J'avais coaché Marlene pour l'année d'après, donner des conseils. Mais l'année d'après, il a fait super chaud. Nous, il a gelé la nuit. Les trous d'eau étaient glacés. C'était très, très, très boueux. Il a plu. Fait que tu sais jamais, il faut toujours dire que la nuit, les conditions vont toujours être pires. Parce que tu sais, ta petite montée debout, là, ben tu vois qu'est-ce qu'il y a sur le dessus, mais quand tu ne vois pas, puis tes appuis sont un petit peu plus fuyants lorsque c'est glissant, tout ça, fait que la nuit, c'est sûr que tout ralentit. Tu peux pas nécessairement, quand tu as une course de nuit, dire ben je vais garder le même pace durant la nuit. Il faut savoir que ton pace diminue de 25 à 50 % la nuit selon ce que tu vas rencontrer comme terrain. Puis s'il pleut, si tu as des mauvaises conditions météorologiques, ben ça peut être encore pire, là. Donc, tu sais, faut prendre ça en compte que si tu as une partie de course qui se passe la nuit, ça va jamais nécessairement se passer à la vitesse puis comme tu veux.
Ouais, ça va être différent. D'où l'importance de s'entraîner la nuit. Donc toi, tu t'étais beaucoup entraîné la nuit. René, toi, tu disais que pour ton 125, tu avais fait un entraînement au Mont-Sainte-Anne. Donc finalement, tu t'avais fait qu'une sortie de nuit pour te préparer au 125. Est-ce
Je
ouais.
pense que oui, une longue, peut-être deux autres courtes, mais sinon pas plus.
Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as changé par la suite pour tes courses suivantes? De
Ah
t'entraîner plus la nuit? Ouais.
oui, surtout pour tester l'équipement, puis de pratiquer, c'est ça. S'il faut que je change les batteries de la frontale, s'habituer au relief, c'est sûr que maintenant, c'est ça que j'encourage aux gens de faire, de faire, tu sais, idéalement 2 à 4 sorties à la noirceur, sans nécessairement faire toute une nuit pour hypothéquer le sommeil.
Mais qu'est-ce qui, par exemple, est-ce que tu te rappelles qu'il y a des choses qui t'ont surprise, en fait, auxquelles tu n'avais pas été préparée? Ou peut-être dans celle-ci, ou peut-être dans d'autres expériences que tu as eues?
Non, j'ai pas une semaine de surprise. Il y a une fois au Chili qu'il faisait noir, puis je sais pas si j'ai eu une hallucination, mais j'avais l'impression qu'il y avait une frontale au loin, quelqu'un qui s'en venait vers moi, là, puis j'étais supposée être vraiment toute seule. Mais sinon, j'ai pas. Je pense que j'ai eu plus peur être à la noirceur dans un chalet que j'étais toute seule dans le fin fond des bois que si j'étais en action. En mouvement, surtout durant une course, on sait qu'il y a du monde, t'es pas tout seul, il y a des ravitaux, fait que c'est plus sécurisant par rapport à la peur.
Est-ce que il y a des choses, Yvan ou René, puis après on pourra embrayer aussi sur les expériences de Marlene, mais il y a des choses que vous auriez aimé qu'on vous dise en fait avant cette première fois-là, ou même
Ben,
sur
tu
d'autres
sais.
fois, parce que vous avez peut-être vécu d'autres choses dans des expériences suivantes.
Ouais, moi j'ai fait beaucoup des courses plusieurs journées du multi-day. Fait que c'est sûr que tu sais, tu peux pas dire je vais dormir la nuit tout le temps parce que des fois t'as la barrière horaire qui te suit, t'as un pépin le jour, t'as pas avancé aussi vite que tu voulais, la température t'es pas bonne le jour, fait que tu avances la nuit. Fait que tu sais, faut se préparer un peu à tout. Moi, un truc que je donne aux gens souvent, c'est pratiquer à changer les batteries de votre frontale parce que je sais que c'est moins écologique là, mais moi je fonctionne pas avec les nouvelles frontales rechargeables. Parce que quand tu es sur du multi-day sur 300 km, ben, tu n'as pas nécessairement de prise USB pour la recharger. T'sais. Avec des petits trucs faciles, il y a des batteries Energizer qui se font, qui pèsent 15 grammes au lieu de 25, qui durent 2 fois plus longtemps. Donc moi, j'étais capable de faire 2, des fois 3 nuits. Et j'avais pratiqué à changer mes batteries tout le temps dans un garde-robe ou une pièce fermée où ce qui fait noir. Mais ça a l'air fou, ça m'a servi en Angleterre sur la Spine parce que problème technique, ma frontale a arrêté, absolument ça la visait. Et puis là, je me suis ramassé carrément dans le noir. Il pleuvait, il neigeotait un peu. Fait que là, j'ai ouvert le sac, je voyais strictement rien, puis j'étais capable de changer les batteries de ma frontale, puis ça n'a pas été du tout anxiogène, c'était pas stressant parce que j'avais pratiqué d'avance. Puis on pense toujours que ça va aller bien, mais il faut toujours se préparer au plus mal. T'sais. Fait que des petits trucs, c'est qu'une frontale, la E-Lite de Petzl, elle pèse 21 grammes avec les batteries. C'est rien 21 grammes dans ta poche ou dans ton sac. Mais si jamais tu n'as pas de lumière la nuit, t'arrêtes, tu t'avances plus du tout. Puis si jamais tu en as très peu, puis tu suis le faisceau, ben tu vas ralentir. Fait que, je me dis, pour 21 grammes, c'est rien de mettre ça dans ton sac, d'avoir une deuxième sécurité. Puis si ça ne sert pas à toi, ça peut servir à un collègue que tu vas rencontrer, que sa frontale est brisée, qui a eu une problématique, tout ça. Fait que je pense que la lumière la nuit, c'est vraiment le truc le plus important. T'sais, on pense à l'hydratation pour la nourriture, mais si tu ne vois pas où ce que tu vas, tu vas nulle part, là.
Donc, ouais, toi, c'est vraiment beaucoup sur la frontale, le matériel, s'entraîner à changer les batteries, en avoir une de rechange ou une petite rechange qui peut te sauver. Ok. Toi, René, est-ce qu'il y avait des choses comme ça que tu aurais aimé savoir avant?
Oui, ça c'est un très bon point, qu'est-ce que Yvan a dit. Je dirais, je pense, qu'est-ce qui est important, c'est de mettre au devant la sécurité, puis de quand même se responsabiliser de sa sécurité Alors, d'être extra vigilant, puis de... C'est ça. Alors, oui, vraiment garder en tête sa sécurité, puis d'être vigilant, surtout quand il fait noir.
Mais là, on parle beaucoup du matériel, de la préparation, mais en fait, moi, la première chose qui me venait à l'idée, mais peut-être parce que j'y vais avec ma propre expérience, c'est, moi, c'est la gestion de la peur, en fait, la nuit. Puis ça, c'est quelque chose... toi, Yvan, tu dis que tu étais vraiment super à l'aise la nuit, que j'ai l'impression que ça ne change pas beaucoup de choses, toi, plutôt dans ta gestion à toi, on va dire, émotionnelle. Mais après, ça change des choses dans la gestion de ta course et dans la gestion du matériel. mais je pense que Marlène, t'as peut-être des expériences, une expérience à nous partager avec ça. Là. Yvan, il me fait des signes, là, vous ne le voyez pas à la caméra.
Oui, effectivement. En fait, je trouve ça super intéressant ce que René puis Yvan racontent, parce que c'est vraiment des super bons conseils que j'aurais aimé avoir avant mon premier ultra qui incluait une nuit de course. Donc, moi, mon premier ultra comme René, c'était en 2015, mon premier 160 km, mon premier et seul d'ailleurs, en fait, j'en ai jamais fait d'autres depuis. Donc, en 2015, au Bromont Ultra, puis à l'époque, j'avais seulement fait des 80 km avant, des 50, donc jamais de course de nuit. C'est ça, à cette époque-là, comme on le disait tout à l'heure, tu sais, c'était nouveau à la fois pour les organisations de course et les coureurs de participer à ce genre d'événement-là au Québec. Donc, il n'y avait comme pas vraiment d'historique, d'expérience entre coureurs à partager vraiment et tout ça. Donc, et moi, je m'étais inscrite étonnamment vraiment à la dernière minute à cet événement-là. J'avais participé 3 semaines avant au défi Everest à Rivière-du-Loup avec Yvan. Puis le défi Everest, c'était le Macadam Ultra là, auquel j'avais participé. Puis c'était toute une fin de semaine de monter, descendre la côte Saint-Pierre à Rivière-du-Loup. J'avais vraiment aimé ça. Puis j'avais fait beaucoup de kilomètres. Puis ça m'avait mis en jambe au point où à la fin du Macadam Ultra, je m'étais dit... Mon Dieu, il me semble que j'en ferais plus, tu sais, puis j'aimerais ça aller au bout de moi-même puis découvrir où ma limite personnelle. Donc, après le Macadam Ultra, j'étais à la recherche du défi le plus long et le plus intense proche de chez moi dans les semaines qui suivaient. Puis, c'était le Bromont Ultra qui s'est présenté à moi. Donc, je me suis inscrite à cet événement-là 3 semaines avant la tenue de l'événement et je m'étais inscrite avec beaucoup de naïveté. Je dois l'avouer, et de méconnaissance aussi de ce type d'expérience. Puis, j'avais décidé de ne pas en parler à personne, en plus, parce que je ne voulais pas me laisser influencer négativement par les gens autour de moi, comme ma famille, par exemple, ou mes amis qui ne pratiquent pas l'ultra-trail, pour ne pas me laisser influencer en disant « ben voyons, c'est fou faire ça, 160 km, ça n'a pas de bon sens, tu vas te faire mal, etc. » Rappelons-nous, en 2015, c'était quand même très peu commun de faire ça, puis... je voulais vivre cette expérience-là avec moi-même. Donc, j'avais pas consulté d'autres coureurs. Je ne m'étais pas vraiment informée sur ce que c'était courir 160 km. Puis, la seule personne qui le savait, c'était Yvan, parce que Yvan allait aussi au Bromont Ultra et on covoiturait ensemble. Donc, évidemment, il savait que j'allais participer au 160, mais c'était la seule personne qui le savait en dehors de l'organisation officielle.
Et lui, il l'avait déjà fait l'année précédente, c'est ça?
Oui, c'est ouais, ça, c'est exact. Ça,
si on a bien suivi...
L'expérience qu'il avait terminée à l'hôpital.
Ah oui, puis j'ai tout expliqué que c'était dur puis comment ça allait marcher, puis elle a tout battu les records cette année-là. Fait que finalement, elle n'avait pas besoin d'explication par
ben, t'es drôle. Mais non. Fait que, bref, j'avais. En fait, je pense que j'avais vraiment sous-estimé la nuit. En fait, j'y avais pas vraiment pensé. Dans ma grande naïveté, j'avais comme pas réalisé que j'allais courir toute la nuit seule. Pour moi, j'allais toujours courir avec du monde, comme dans une course, on court toujours avec du monde pas loin. Fait que, puis j'avais jamais couru la nuit, je m'étais même pas entraînée la nuit, donc j'avais même pas la conscience que j'allais avoir peur. Donc, je savais pas que j'avais peur du noir. Fait que, voilà, donc tout ça pour dire que le départ se faisait très tôt le matin, puis on était seulement une trentaine sur la ligne de départ à cette année-là, je pense qu'on était 35. Et donc, le départ se faisait très tôt le matin et on arrivait dans la nuit le samedi soir. Donc, on avait déjà couru quand même une douzaine d'heures avant que la nuit arrive. Puis, ça allait super bien. Moi, c'est le Bromont Ultra, c'est 2 boucles de 80 km. Ce qui est quand même rassurant là, pour une course qui inclut une nuit complète de course, là, soit dit en passant. Mais pour moi, ça n'a pas été suffisant pour me rassurer. Parce que la nuit a commencé et que je me suis enfoncée dans la nuit, ça m'est comme frappé d'un coup sec à un moment donné. Il faisait très noir, j'étais dans un sentier plus technique, il n'y avait personne autour de moi. J'avais une lampe frontale minable, genre de camping qui éclairait presque pas. Je voyais pas vraiment le sentier en avant de moi, puis je voyais plein d'yeux lumineux autour de moi qui me regardaient à cause de ma lampe frontale. Vous savez, ça reflète les yeux des animaux, là. Mm-hmm. Donc, il y avait toutes sortes d'yeux qui me regardaient, puis j'avais aucune idée c'était quoi ces animaux-là, parce que ma lampe frontale n'était pas capable d'éclairer l'animal lui-même. Donc, je voyais juste les yeux, pas l'animal. Donc, je ne savais pas si c'était un raton laveur, une marmotte, ou si c'était un coyote ou un loup. Donc là, je me faisais des peurs à moi-même en imaginant des animaux sauvages qui allaient m'attaquer. À Bromont, soit dit en passant, qui est pas très sauvage. Donc, et voilà. Et donc, je me suis mise à avoir peur tout d'un coup, puis j'ai eu de la difficulté à avancer à partir de ce moment-là. J'essayais d'attendre d'autres coureurs derrière moi qui viennent me rattraper. Il n'y avait personne qui me rattrapait. J'essayais de crier, voir s'il y avait des coureurs qui s'en venaient. Il n'y a personne qui répondait. Donc, j'étais vraiment seule avec moi-même, puis j'avais pas le choix de me dire « Let's go, grande fille! » Avance parce que tu n'as pas le choix d'avancer pour te rendre au prochain ravito. Donc, ça a été psychologiquement quand même assez difficile. Puis, vraiment très difficile, là, je dirais. Donc, ça a été un gros travail sur moi-même cette nuit-là pour me permettre d'avancer. Puis, il y a des sections où est-ce que pendant la journée, des randonneurs avaient enlevé des flags. Donc, il y avait du flagage qui avait manqué aussi sur le parcours. Puis, ce n'est pas du tout la faute de l'organisation, là. C'était des gens qui avaient enlevé les flags à un certain moment. Donc, je m'étais perdue à différents endroits. Bref, ça a comme été une nuit vraiment difficile et plus longue que prévu. Fait que ça a été ça, ma première expérience de course la nuit. Puis je me souviens encore quand je suis arrivée finalement au ravito, en plein milieu de la nuit, il devait être 2h du matin. Je ne m'en souviens plus là, quelle heure qu'il était. Puis ça faisait déjà plusieurs heures là, que j'avançais péniblement. Puis je suis tombée en pleurant dans les bras du bénévole qui m'a accueilli en premier. Puis... Il a fallu qu'on vienne me réconforter parce que j'avais peur de repartir là, tout seul encore, continuer une petite partie de la nuit avant que mon pacer, mon conjoint Pierre-Luc, vienne me rejoindre plus tard sur le parcours. Donc voilà, ça a été ma première expérience de nuit, un peu traumatisante, je vous dirais. Puis j'ai beaucoup appris de cette expérience-là et aujourd'hui, donc j'ai beaucoup d'empathie pour les coureurs du 125 km d'Aricana qui font une nuit complète depuis notre changement d'horaire l'année dernière. J'ai beaucoup pensé à eux la nuit l'année dernière. Donc voilà. Et depuis, je n'ai pas recouru de nuit. Je ne sais pas si je suis restée honnêtement un petit peu marquée par ça, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de combattre ma peur.
Mais qu'est-ce que ça t'a appris, outre le fait? C'est sûr que tu sais, on comprend en t'écoutant qu'il te manquait vraiment une préparation, puis que peut-être que toi, justement, tu avais une relation avec la nuit qui est où tu as besoin de plus te préparer parce qu'il y a peut-être plus de peurs qui sont là. Mais qu'est-ce que ça t'a appris d'autre? Et comme tu n'en as pas fait depuis, est-ce que tu penses que tu as le projet d'en faire? Est-ce que tu penses que tu vas essayer d'en refaire d'autres?
Oui, tout à fait. Ben, tu sais, je pense que c'est très psychologique, en fait. Mm-hmm. J'en étais consciente en courant que c'était dans ma tête. Là, puis je me disais, même en courant, je me disais, mais voyons, Marlène, t'as pas besoin d'avoir peur. Il y a rien de dangereux ici. C'est jamais arrivé que quelqu'un se fasse attaquer par un animal sauvage à Bromont. T'sais, fait que je me parlais à moi-même. Puis là, je courais. Puis en même temps, ça fait longtemps que tu cours. T'es fatiguée, t'es déshydratée. Tu commences un petit peu à vaciller dans ta tête. Puis là, je me disais, ben oui, mais il y a toujours une première fois. Puis il y a toujours... Fait que là, c'est comme mon côté obscur qui parlait à mon côté, tu sais, plus éclairé.
Oui, c'est ça, c'est le petit hamster là qui embarque, en fait, parce que...
C'est ça, exact.
Même si tu dis que c'est pas possible, c'est de l'anxiété un peu qui embarque. Mais comment on fait pour gérer ça? Toi, René, est-ce que tu as dans les gens que tu accompagnes, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui identifient des peurs avant d'avoir déjà couru et quels conseils on peut leur donner, en fait, pour faire face à ça?
Oui, ben comme je pense que la peur, dans le fond, c'est une émotion. Puis qu'est-ce que j'encourage surtout, c'est d'observer. Fait que, c'est comme s'il y a un film qui se passe devant nous, puis il y a quelqu'un qui filme le film. Souvent, on est dans le film quand on est dans l'émotion. Mm-hmm. Puis alors, j'essaie d'encourager de plus être celui qui le filme, de l'observer. Puis un truc que j'avais fait une fois, c'est ça, j'étais dans un chalet dans le fin fond des bois. Puis il y avait pas de barrure pour barrer le petit shack. Puis j'étais toute seule. Puis quand j'allais me coucher, puis je fermais toutes les lumières, il faisait vraiment noir. Puis j'avais peur. Fait que j'allumais les lumières pour me rendre jusqu'à ma chambre. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, ça n'a pas d'allure, là. Ça, je faisais ça quand j'avais 10 ans. Là, j'ai 40 ans. Là, ça serait le fun que je sois capable de me coucher à noir. Fait que j'ai fermé les lumières, puis je suis juste restée dans la noirceur. Puis là, je voyais que j'avais peur, puis je restais, puis je bougeais pas, puis j'observais. Puis là, je prenais quelques pas, puis j'observais. Puis plus que j'étais dans l'observation, moins que j'étais dans l'émotion, puis plus que là, j'étais capable de monter, me coucher à la noirceur en observant mon émotion.
Fait que c'est intéressant, ça, René.
C'est plus difficile à faire ou c'est pas ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je dis pas que ça fonctionne à chaque fois, mais plus qu'on est dans l'observation, moins qu'on vit l'émotion intensément. Fait que c'est de l'observer puis surtout de pratiquer. Fait que quelqu'un qui a peur à la noirceur, c'est sûr que je dirais de pratiquer, puis comme n'importe quelle chose qu'on commence à faire, de pratiquer avec quelque chose qui est plus facile. Alors, tu sais, ça peut être d'aller marcher dehors dans la rue à la noirceur. Sinon, si on est à l'aise, après, marcher dans le bois, jogger dans le bois, puis sur des petites distances, sur des petites durées, quand on sait qu'on est proche de la voiture. Fait que commencer avec quelque chose qu'on est à l'aise, puis tranquillement aller vers quelque chose qui ressemble plus à qu'est-ce qu'on va faire durant notre défi, notre parcours. Et puis juste de pratiquer, puis d'observer qu'est-ce qui se passe. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les émotions qui montent? Ou c'est est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai beaucoup peur? Est-ce que je suis capable de gérer ma peur? Puis accueillir cette peur-là aussi. Plus que je me dis non, vas-y, fonce, ou t'as pas le droit d'avoir peur, ben là, c'est de reconnaître la peur, puis je dirais d'essayer de l'accueillir, puis de travailler avec.
Ça veut dire qu'en fait, dans ton entraînement, il faut aussi que tu t'entraînes te mettre en situation de peur, finalement, si tu sais que déjà tu as une petite sensibilité ou même une grosse sensibilité avec ça, il faut que tu t'entraînes un peu à avoir peur et à te mettre dans des situations de peur, parce que au moment de ta course, moi, ce que je me dirais, tu sais, c'est que même si je m'entraîne, que je me mets dans des situations dans le noir, des choses comme ça, quand tu as couru beaucoup de kilomètres, des fois, c'est difficile de rester lucide et de justement arriver à se dire je l'observe, ma peur, tu sais, parce que Marlène le disait, elle disait, je savais que c'était mon mental, mais j'arrivais quand même pas à m'en sortir de ça. Donc, ouais, Yvan, tu voulais compléter là-dessus?
Bien, je trouve ça super intéressant ce que René dit. Ce que je travaille avec mes patients, particulièrement depuis la pandémie, depuis 2 ans et demi.
Je vais juste préciser, Yvan, que toi, tu étais acupuncteur, en fait, aussi, pour les gens qui ne le savent pas, oui. Okay.
Oui, je suis acupuncteur, thérapeute du sport, tout ça. Puis, il y a beaucoup d'anxiété dans notre société depuis la pandémie. Et l'être humain, on a deux super pouvoirs et c'est pas des défauts. Le premier, c'est l'anxiété. Puis le deuxième, c'est l'imagination. Donc, l'anxiété, c'est un super pouvoir. Ça nous permet de nous projeter dans le futur. Donc, de prévoir des dangers, d'avoir déjà des plans de contingence pour quelque chose qui pourrait arriver. Mais plus on devient nerveux, plus on devient anxieux, plus ce phénomène-là s'accentue. Et qu'est-ce qui se passe la nuit qui embarque de plus? C'est l'imagination. Donc là, j'entends un bruit, je ne vois pas, mais j'imagine qu'est-ce qui pourrait être en arrière de tout ça. Donc, ce que René a parlé, de travailler par échelle de compétences au niveau des gens, ça, c'est fondamental. Donc, si tu te confrontes à une trop grosse peur, ben, tu vas tout simplement bloquer. Fait qu'on y va par étapes, par échelle de compétences. J'ai fait un petit défi, j'ai réussi, je vais un petit peu plus loin. Mais il faut que les gens comprennent que la peur de la nuit, c'est une peur qui est acquise. On a deux peurs fondamentales, l'être humain. La peur d'un cri strident, donc si on a un bruit, un fusil, mettons, tout le monde va geler. Même un garde du corps va geler une fraction de seconde. Puis la deuxième, c'est de tomber. La peur du vide, la peur de la chute. Toutes les autres peurs sont des peurs qui sont acquises. Donc, on a vécu 9 mois dans le ventre de notre maman à la noirceur. On est sorti, pof, de la lumière, on ne voyait pas grand-chose. Fait que le noir représente juste ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas conscientiser. Et là, l'imagination embarque et l'anxiété propulse le phénomène. Donc, ça, c'est un moyen de défense. Il faut comprendre que ce n'est pas anormal. C'est vraiment pour nous protéger, ça nous sert. Mais il faut réussir à sortir de cette boucle-là. Je me rappelle une fois que j'ai vraiment eu peur la nuit, je suis arrivé sur un plateau à 2000 mètres d'altitude sur la Transpyrénée, puis comme a dit Marlène, la nuit quand on a une frontale, moi je recommande au moins 120 lumens la nuit. Sérieusement, si vous ne voulez pas ralentir votre pas puis votre rythme oculomoteur dans votre course. Et là, j'ai vu 10 yeux s'ouvrir. Hein, 10 yeux, c'est quoi? Mais là, ça a fait « meh ». Puis là, il y a des centaines d'yeux qui sont ouverts. Il y avait un troupeau de moutons sur le plateau qui devait faire à peu près 2000 individus. C'est vraiment impressionnant. Puis eux autres, à 2-3 heures du matin, je veux dire, ils dorment. Fait que là, je trouve ça rigolo. Je passe à travers les moutons. Je fais même un petit peu de bruit avec mes bâtons. Mais à un moment donné, j'entends japper à côté de moi. Fait que ceux qui ne le savent pas, dans les Pyrénées, il y a des patous. qui sont les chiens de berger. Et la chose la plus dangereuse, il y a, je pense qu'il y a 15 ours sur toutes les Pyrénées. Les gens ont peur des ours. Il n'y en a pas d'ours ces Pyrénées. Là, si tu rencontres un ours, là, il y en a 15 sur 900 km. Mais les patous, c'est très dangereux. Puis ils vont t'attaquer si tu es au centre des moutons avant qu'ils te voient. Parce que là, ils te considèrent comme un ennemi. Donc, à chaque année, il y a des attaques de patous sur des randonneurs, sur des coureurs dans les Pyrénées. Alors là, c'est la nuit. Moi, je ne vois pas le chien. Oups, j'en entends un, j'en entends deux. Il y a deux chiens qui grondent puis qui tournent autour de moi. Je suis incapable de les voir. Il y a des centaines de moutons qui se poussent dans tous les sens. Alors là, je me suis rappelé un conseil qu'un ami m'a dit. Il dit, tu chantes des chansons. Fait que là, je me suis mis à chanter une comptine d'enfant tranquillement, pas vite, pour que le chien comprenne que je suis un humain. Je suis pas son ennemi, puis je mangerai pas un mouton. Ben, ils m'ont suivi sur 2 à 3 km jusqu'à temps que je sorte du plateau. Ils m'ont suivi dans le pierrier en descendant. Je ne les ai jamais vus sauf du bout de la frontale. Puis ils ont jappé longtemps, longtemps après que je sois passé. Mais si j'aurais gelé, je me serais mis à crier ou je serais parti à courir. C'est sûr que le chien m'aurait attaqué à ce moment-là. Fait que tu sais, là, j'ai vraiment eu peur, mais j'ai réussi à conscientiser le conseil que j'avais eu avec le calme que j'avais réussi à développer avec les courses de nuit puis tout ça, puis à passer à travers ça. Mais je veux dire, il y aurait un chien qui aurait pu m'attaquer puis il aurait pu me mordre aussi à ce moment-là. Fait que tu sais, là, j'ai eu la bonne idée de chanter des petites chansons puis de continuer à marcher puis de faire un peu de bruit. Mais tu sais, je veux dire, la nuit, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver qui ne t'arriveront pas le jour, tu sais. Mais il faut être prêt à ça, puis il faut y aller par échelle de compétences, tranquillement, pas vite, là, repousser nos peurs.
Ben,
Mais en
tu peux
même
assez.
temps, toi, excuse-moi, Marlene, mais en même temps, toi, là, tu avais été confrontée à un vrai danger, entre guillemets, là, quand même. C'était pas quelque chose qui était dans ta tête. Mais après, c'est tout ce qui se passe, en fait, dans ta tête qu'il faut arriver. Tu sais, on peut pas tout se préparer, mais qu'il faut arriver justement à gérer malgré la fatigue, malgré tout ça. Oui, excuse-moi, Marlene, du coup, je t'ai coupée.
Ben non, pas du tout. Moi, ce que je trouve intéressant de ce qu'Yvan a dit, c'est ça, c'est l'importance de se préparer, tu sais, d'en parler avec d'autres personnes, de lire à ce sujet-là, d'échanger, d'avoir de l'expérience pour savoir quoi faire, comment réagir, être capable de rationaliser puis de réfléchir quand une situation survient. Puis définitivement, tu sais, quand je racontais mon expérience au Bromo Ultra, c'était vraiment le manque de préparation qui a fait en sorte que j'ai mal réagi sur le coup parce que je pense que c'est important de le visualiser, de le comprendre, d'anticiper ce qui peut arriver pour être mieux préparé à bien réagir le moment venu, là. Tu sais, moi, je pense que c'est fondamental. Puis c'est vraiment ça la leçon que moi j'ai retenue de mon expérience, c'est d'essayer de se préparer, c'est ça, à la fois psychologiquement, puis physiquement, puis avec son matériel, comme ils l'ont dit. Donc la préparation est vraiment super importante.
Puis quand on avait discuté, je vais te donner la parole là, Yvan, mais quand on avait discuté justement, Yvan, ensemble, tu me disais aussi ce qui est important. René parlait de l'observation de soi, de ce qui se passe, de nos émotions. Mais toi, Yvan, tu me disais aussi ce qui est important, c'est d'observer beaucoup l'environnement. Par exemple, quand la nuit commence à tomber, tu disais d'observer la noirceur qui arrive, parce que ça permet de mieux te préparer, de ne pas te retrouver d'un coup à dire il fait nuit, là.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, quand la nuit s'en vient, là, la demi-heure avant, là, pas attendre pour fouiller dans son sac. T'sais, moi, je parle sur des courses multi-étapes, là. T'sais, des fois, même à 10 h le matin, j'ai encore ma frontale sur la tête, j'avais oublié de l'enlever après 3 ou 4 nuits. Mais tu sais, préparer ton matériel, puis te préparer à entrer dans la nuit. La nuit, là, si tu regardes la nature, moi, je vais faire un peu de yin-yang. Yang, le jour, le soleil, l'activité, le bruit, ça bouge. Mais la nuit, si tu entres dans la nuit, de la même manière que la nature se transforme, ça va bien aller. Les bruits se calment. Il y a plus de bruit le jour que la nuit. C'est juste que la nuit, comme tes yeux sont pas là, au moins là, tu es plus attentif à ton sens qui est l'audition. Fait que, entrer dans la nuit avec une espèce de calme méditatif. T'sais. Moi, je ralentis toujours le pas. Je ralentis le souffle la nuit. Je commence à préparer mes choses. Puis je suis vraiment bien. Puis là, quand la nuit est bien installée, là, je m'aperçois qu'il y a des sons qui sont pas différents des sons du jour, en fait. Puis tu rentres dans cet aspect-là avec un lien méditatif à toi-même. Tu fais une introspection en toi. C'est sûr que si tu rentres dans la nuit avec des peurs, des craintes, ce qui est arrivé à Marlene, ben, tu sais, elle ne l'avait jamais expérimenté, fait que là, ses peurs se sont manifestées. Elle a fait une projection de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y avait rien de plus à l'extérieur. Donc, si tu es calme à l'intérieur, que tu as pratiqué de la méditation, que tu as clairé tes vieux démons, ben, la nuit, il n'y aura rien de plus que toi qui es en mouvement. T'sais. Fait que c'est toujours de te préparer en arrivant la nuit, de faire du ménage dans tes peurs, tes craintes, de te documenter le plus possible pour avoir vraiment le plus de connaissances. Comme les chiens, je savais que ça existait des chiens. J'en avais jamais vu, mais là, j'étais documenté. Donc là, à ce moment-là, quand des situations arrivent, ben, tu peux y faire face. En Angleterre, Hélène Dumais m'avait énormément aidé à faire la spine, puis elle m'avait parlé du problème du faisceau lumineux. La quatrième nuit, la Spagne, ça a l'air bien le fun, c'est une course hivernale, mais tu es dans le noir 16h15 par jour. Mais à un moment donné, ton cerveau habite le flux lumineux. C'est-à-dire que si tu éclaires dans une direction, tu mets ta main juste à côté du flux lumineux, tu ne verras plus ta main. C'est hyper anxiogène parce que tout ce qui est réel est dans le flux de lumière. Tout ce qui est à côté ne l'est pas. Fait que si tu regardes au loin, tu vas voir, mais il faut que tu regardes tes pieds pour avancer. Et le cerveau a complètement déconnecté de tout ce qui n'est pas dans la lumière à force d'habiter le flux lumineux. Mais ça, quand ça t'arrive, c'est complètement anxiogène. Moi, j'ai arrêté, puis j'étais comme, hey, là, je me suis mis quasiment à faire de la tachycardie. Une chance qu'Hélène m'en avait parlé, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je fais là? Je fais un AVC, j'arrive plus à voir comme il faut. Mais non, mais j'étais préparé à ce phénomène-là du flux lumineux, puis de savoir que là, ben oui, ça faisait ça. Puis même quand le jour arrive, tu es un peu ébloui, puis là, c'est parce que tu as fait trop longtemps dans une course durant la nuit. T'sais. Mais je pense que d'avoir fait son introspection, d'avoir préparé sa course, d'avoir parlé à des gens qui ont fait ce type de course-là, et puis après ça, d'avoir pratiqué dans des situations réelles, c'est vraiment la meilleure chose qu'une personne peut faire si ça veut réussir des courses, que ce soit une multi-day ou une nuit seulement. Là.
Puis ça, l'effet tunnel dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver sur une course de 24 heures, enfin d'une journée en fait, ou c'est vraiment sur plusieurs jours? Ouais.
Oui, c'est vraiment sur plusieurs jours. Je pense qu'Hélène, elle m'a dit qu'elle, ça lui était apparu la cinquième journée. Moi, c'était apparu la quatrième nuit. Mais ça apparaît pas tout de suite au début, là. C'est vraiment, puis on comprend pas le processus. Je me suis documenté, mais c'est vraiment le fait que le champ de conscience humain vient habiter le faisceau qui est visible. Puis en dehors, tu vois rien. Mais c'est vraiment impressionnant quand ta main est à côté de ton œil puis de ta frontale, mais tu la vois pas, là, c'est assez particulier. Ouais. Mais les gens n'ont pas à craindre de ça. Ça se passe vraiment là, dans le multi-day. Puis sur la Transpyrénée, l'Euphoria, le Thar, des autres courses longues que j'ai faites, ça n'est jamais arrivé. Je pense que ça prend une période de nuit d'au moins, ben moi je dirais 12 heures, là, mais au moins 16 heures où est-ce que là vraiment, le cerveau il se met en mode nuit complètement là, sur plusieurs jours. Fait que, tu sais, les gens n'ont pas à être inquiets. Là, ça ne fera pas ça sur un Arikana, mettons.
Ok. Puis comment on fait pour gérer la fatigue en fait justement parce que c'est pas des même si on s'entraîne c'est des moments où on dort d'habitude la nuit la majorité de l'année on va dire. Donc comment on fait pour gérer ça? Puis j'ai une deuxième question dans ma question. Est-ce que vous avez vu sûrement un impact sur l'horaire de départ de la course? La Marlene va nous en parler après justement l'horaire de 825 a été décalé pour justement mieux s'adapter. À tout ça là. Mais est-ce que justement le fait que vous entriez dans la nuit après avoir fait beaucoup d'heures ou que vous entriez dans la nuit ou que vous démarriez une course la nuit comme c'était le cas avant l'UTHC, est-ce que vous avez vu un impact vous si tu veux René, toi, commencer là-dessus sur la gestion de la fatigue?
Oui, mais dans le fond, je pense que c'est de se faire un peu un plan, ben, se faire un plan de match puis de le suivre. Puis de se préparer que, tu sais, de respecter, de manger aux 45 minutes ou la fréquence qu'on va manger, de vraiment respecter ça. Puis si on n'a pas faim, à la fin, c'est dur de manger, on a moins envie de manger, mais de trouver quelque chose qu'on est capable de quand même rentrer des calories, de la caféine, évidemment, prendre de la caféine. Avant que ça se présente ou durant, que ça soit prévu, qu'on sache qu'on l'aille. Et puis, de le pratiquer sans nécessairement peut-être faire toute une nuit blanche, là, mais ça pourrait être intéressant de le pratiquer aussi, c'est d'aller faire un peu une sortie de nuit, une demi-nuit après le travail, une journée qu'on est peut-être un peu plus fatigué, pour voir qu'est-ce qui arrive.
De s'adapter finalement aussi à l'horaire de la course qu'on va faire. Est-ce que si par exemple la course part en pleine nuit, est-ce que on s'entraîne en se disant on dort un petit peu, puis on se lève dans la nuit, puis on part faire un entraînement genre à 2-3 heures du matin? Est-ce que ça se fait ça?
Ben, moi, je dirais de plus pas dormir, de rester réveillé, puis de partir. T'sais, si le départ est à 2 h du matin, ben je dirais va faire une sortie, puis commence peut-être à 11 h le soir. Puis tu peux finir à 2 h du matin, puis faut pas non plus peut-être scraper ta nuit de sommeil.
Ben, René a vraiment raison là-dessus. Puis, tu sais, il faut l'expérimenter. C'est quoi le déficit de sommeil? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Puis, à un moment donné, tu as juste besoin de serrer les dents. Parce qu'à 4h30 du matin, le soleil se lève, puis c'est vraiment une espèce de renouveau. Puis, je peux vous dire que des fois que ça arrive 2 fois, j'avais dit à un ami belge sur la transpi, j'avais les larmes aux yeux, je dis, t'as-tu vu, c'est beau le lever de soleil? Et André, il dit, ben, c'est le deuxième aujourd'hui. Je pense à ça dans ma tête. Ben oui, ça fait 34 heures qu'on court, ça fait 2 levées de soleil, tu sais. Mais je pense qu'il faut l'expérimenter dans son corps, mais ça ne te préparera jamais à ça à 100% parce que le sommeil, c'est une chose que tu ne peux pas banquer. Tu sais, tu peux manger un petit peu plus avant une course, tu peux loader des carbs, tu peux t'hydrater, tu peux. Mais le sommeil, c'est bonne valeur. Tu peux pas dire, je vais dormir 16 heures durant 3 nuits, puis la nuit prochaine, je dormirai pas. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a un appel à chaque nuit. Fait que, tu sais, comme dit René, mange un petit peu plus, parce que la nuit, souvent, tu as un déficit au niveau calorique, mais avec la température, tu peux tomber un petit peu plus en hypothermie, tu peux avoir froid. Donc, préparer ça comme ça, les pastilles de caféine, puis à un moment donné, à la fin de la nuit, ben, c'est de savoir qu'il faut serrer les dents jusqu'aux premières lueurs du soleil, puis ça va repartir.
Il y a Marlene qui lève le doigt, vous la voyez pas.
En fait, c'est ça. Je suis curieuse, moi, de savoir. On m'avait donné comme conseil d'écouter de la musique, soit avec des écouteurs ou d'avoir comme de la musique qui joue pas nécessairement dans les oreilles, mais sur soi, ce qui peut être rassurant quand on court la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez, René, Yvan, de ça? Est-ce que c'est une stratégie que vous utilisez, vous, la musique?
Moi, personnellement, je cours pas avec de musique. Je l'ai pas mal jamais faite. Je pense que j'aime ça être avec moi-même. Puis surtout la noirceur, t'sais, la concentration. Fait que c'est sûr que la musique, c'est peut-être intéressant pour nous divertir. Sauf qu'on est peut-être un peu moins concentré. Puis à la noirceur, faut être, la concentration, c'est vraiment important. Puis à un moment donné, les pieds lèvent plus, on s'enfarge. Personnellement, j'en ai de la musique dans ma tête. Je préfère le faire sans musique, puis être plus concentrée, puis vigilante.
Super.
Ben, on a eu beaucoup de discussions avec Marlène ensemble sur le dopage, parce que tu sais, il y a une forme de dopage. Quand tu mets de la musique, là, ça te fait des endorphines, un peu de sérotonine, c'est plaisant. Moi, la nuit, j'ai tendance à mettre de la musique, mais côté sécurité, je dirais aux gens seulement un écouteur. Parce que si quelqu'un est blessé, si tu as un bruit à entendre, s'il y a un danger, ne jamais courir avec deux écouteurs, surtout en sentier, puis même sur la rue, là, je veux dire, tu sais pas ce qui va arriver, les autos. Fait que moi, j'aime bien, je garde ça comme dernier recours. Un peu comme René, j'aime ça le calme, j'aime ça la tranquillité. Si jamais je cogne des clous, je commence à m'endormir, je vais dire que Lose Yourself, Eminem, là, à 3 h du matin, ça fait la job. Avec une playlist des années 80, c'est parfait. Mais un écouteur à la fois, puis moi, je m'en sers vraiment là, dans les moments que je m'endors énormément, beaucoup, que j'ai besoin d'un petit pep. Mais sinon, ça va être sans musique aussi.
Ah, c'est intéressant.
Ouais, ça peut aider pour la gestion de la fatigue aussi. Puis la gestion de la lassitude, parce qu'on parle de ça, enfin, il y a beaucoup de coureurs d'ultra qui disent que des fois, ben, c'est ça, tu as la lassitude qui embarque de jour ou de nuit. Est-ce que la nuit, ça peut être plus fort, sachant que tu sais, de l'environnement, on a comme encore moins de diversité vu qu'il fait noir. Est-ce que vous avez eu à gérer ça ou pas plus que le jour où vous n'avez pas de lassitude quand vous courez des ultras? Ouais,
Je pense que tout le
c'est
monde a de
ça.
la lassitude, même Kylian Jornet a de la
Ouais.
lassitude, mais non, c'est plus difficile la nuit parce que vraiment, tu sais, je le dis, on est des bébêtes diurnes, là. Fait que quand on tombe la nuit, ton cerveau, il dit, ben là, t'es bien câble, là, tu veux-tu te coucher, tu sais. Fait que faut quand même expérimenter aussi des petits trucs. Moi, je suis un gars de power nap. Fait que, tu sais, sur la transpi, je me rappelle avoir dit une amie Karine, une Française, je disais, je vais faire un petit power nap. Je m'étais allongé, là, 8 à 10 minutes, la tête sur une souche avec mon sac. Puis je m'étais relevé frais comme une rose. Ben, pas possible, t'as pas dormi, hein? Oui, j'ai dormi, je suis correct. Fait que moi, je suis capable d'en faire un 3-4 heures en faisant ça. Mais il y a des gens qui ont besoin vraiment plus d'une période de sommeil. Fait que tu sais, c'est de savoir qu'il faut se connaître jusqu'à un certain point, que si la lassitude est trop grande, puis que là, tu avances à peu près à 25-30 % de ta vitesse, peut-être que tu es peut-être vraiment mieux de te reposer, de prendre une pause pour repartir comme il faut. Mais ça demande de la connaissance de son métabolisme, de son corps, puis de comment tu réagis pour pouvoir prendre action si jamais ça se passe, là.
Puis il faut être capable de. Comment tu fais pour faire. Moi, j'appelle ça le sommeil du marin. Tu sais que les marins dorment juste des par petites tranches de quelques minutes, là. Mais comment tu fais pour faire une power nap au milieu du bois?
Moi, je pense que c'est intrinsèque. Là. Je dis toujours
Ouais.
avec Richard Turgeon que c'est notre super pouvoir de super-héros. Là.
Ouais.
Moi, des fois, je finis la clinique, j'ai un patient qui reste dans une salle, je laisse la salle ouverte, je m'allonge sur la table de traitement à côté, puis je dors 5 minutes, puis je me relève. T'sais. Fait que j'ai une facilité incroyable à entrer en sommeil. Je peux pas t'en dire plus. Peut-être beaucoup de méditation, je te dirais.
Ouais.
Fait que je fais juste fermer les yeux, je détends, puis pop, je pars.
Mmh.
Mais ça, c'est hyper salutaire là, sur les courses là, quand tu as besoin de faire un petit repos. Là.
Tu le fais, toi, René, aussi? Tu l'as expérimenté?
Non.
Non.
Moi, je suis pas mal wired dans ma tête. Mais c'est sûr que j'ai pas fait des 5 jours là, sans dormir. Là. Mais jusqu'à date, ouais, je suis trop ouais, réveillée pour sentir le besoin de dormir. Mais oui, je pense que c'est propre à chacun. Puis si la personne, durant la nuit, sent qu'il pourrait s'endormir, ben je pense que ça pourrait être très payant. Puis je dirais, là, c'est là que ça serait temps de mettre une alarme sur le téléphone qui sonne fort, puis que tu donnes un 10-15 minutes, puis après ça, ben tu repars. Puis ça pourrait faire une belle différence quand on sent le besoin.
Ça, c'est un bon commentaire, René. J'ai déjà entendu parler quelqu'un qui s'était endormi et ne s'est jamais réveillé, donc a été donc elle n'a pas pu terminer sa course finalement et était très déçue de ne pas avoir été réveillée par d'autres personnes pour pouvoir poursuivre sa course. Donc l'alarme, c'est un très bon conseil.
Hey, c'est incroyable ça. Vraiment sommeil, ça c'est une vraie anecdote. Mais l'alarme, ça me fait penser à l'histoire de routine aussi. Puis René, tu m'avais parlé aussi que justement, quand la fatigue embarque et tout ça, vous avez parlé de pratiquer vos transitions, de pratiquer les changements de batterie. Mais justement, c'est vraiment de se préparer. Je pense que toi, tu as des checklists, en fait, hein, tu disais, René, pour ton sac.
Oui, c'est ça. Puis maintenant, tu sais, c'est quelque chose qui peut arriver facilement d'oublier de faire une action. Fait que c'est sûr que là, j'encourage, surtout quand on a une équipe de soutien ou même sans équipe de soutien, quand on arrive au drop bag, ce serait pas pire de se faire une liste des actions qu'on a besoin de faire. Combien de choses qu'on a besoin d'apporter sur nous comme bouffe ou de changer tel vêtement, puis de faire une liste, puis d'aller à travers la liste pour s'assurer qu'on n'a pas oublié, ah, j'ai oublié de changer ma brassière ou j'ai oublié de mettre du glide ou de prendre des nouvelles piles. Fait que ça, parce que là, quand on est fatigué, on oublie ou on sait plus trop qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Puis surtout, on est peut-être tanné puis on n'a pas envie de le respecter. Puis c'est surtout à la fin, c'est là que c'est important ou intéressant de...
Surtout si on a envie de laisser sa lampe.
Oui, c'est ça.
Oui, Yvan, tu voulais dire.
René a totalement raison. Tu sais, sur des courses, à un moment donné, il faut que les trucs deviennent des automatismes. Surtout si tu fais du multi-day, il faut pas que tu te poses la question. Tu sais, souvent, on se dit, oh, ça va être correct. Tantôt, je parlais de changer mes batteries dans une pièce noire, juste au senti. Ben, des fois, la nuit, si tu fais du multi-day, monter ton abri, monter ta petite tarp au-dessus de toi, tu le fais quand il pleut puis quand il vente. Tu fais pas ça au beau soleil le dimanche chez vous une fois, puis oh, ça a bien été. Non, non, mets-toi dans des conditions réelles. Tu sais, si tu vas faire une course qui est froide, va dehors, habille-toi juste avec un t-shirt, attends de geler durant 10 minutes, puis là, commence à faire tes affaires pour voir comment tu réagis. Tu ne vas peut-être pas dire, comme le dimanche à midi, que oh, ben, ça va bien finalement. Fait que mets-toi dans des conditions réelles pour pratiquer. C'est vrai la nuit, c'est vrai pour d'autres choses. Puis challenge-toi plusieurs fois. T'sais. Dis pas juste une fois, oh, ça a bien été. Ben non, refais-les plusieurs fois de suite dans différentes conditions pour t'assurer que tu es capable de faire le truc.
C'est un bon commentaire, Yvan, parce que souvent, la nuit va faire beaucoup plus froid que le jour. Il peut y avoir des gros écarts de température, puis pour l'équipement, la gestion de la chaleur corporelle, c'est vraiment un défi, je pense, courir la nuit à ce niveau-là aussi. Là. Puis c'est sous-estimé à quel point la température peut baisser. Là. En tout cas, nous, dans Charlevoix, c'est fascinant. Là. Je me souviendrai toujours, je pense que c'était en 2018 ou en 2019, faisait... à la Malbaie, 15-16 degrés le vendredi après-midi quand on faisait notre réunion d'avant-course. Puis, je me souviens des gens qui nous demandaient, mais oui, mais pourquoi on a besoin d'une tuque puis d'un gilet à manches longues pour le 125 km qui annonce beau toute la fin de semaine? Puis, finalement, pendant la nuit, je pense que neiger là, dans l'arrière-pays de Charlevoix, il faisait moins 1 degré, très froid. Puis, voilà, pas sous-estimer les écarts de température, je pense que c'est super important.
Moi, je vais renchérir là-dessus sur une statistique. Ceux qui se demandent si le matériel obligatoire est obligatoire, là, toute la forêt boréale au Québec, même en plein été, vous avez de fortes chances de mourir la nuit si vous n'avez pas de couverture de survie ou une source de chaleur. Parce qu'à un moment donné, votre corps, il décide d'arrêter deux choses. Soit qu'il arrête de faire de la chaleur ou soit qu'il arrête de produire de l'énergie. Fait que si vous êtes en course, vous avez besoin de faire de l'énergie. Vos muscles font de la chaleur, bien sûr, là. Une dissipation de chaleur. Mais à un moment donné, là, il va arrêter de produire de la chaleur parce que vous lui demandez de faire de l'énergie. Puis quand vous êtes à bout, là, que vous n'avez pas mangé puis tout ça, bien là, le corps, il arrête de faire les deux. Il ne produit plus de chaleur, puis il ne produit plus d'énergie. Fait que dans la forêt boréale, au Québec en général, même en plein été, à cause du niveau d'humidité, vous n'êtes pas dans le désert du Sahara qui a 5% d'humidité, là. Tu sais, je reviens du désert, puis il faisait 0 à 4 la nuit. Puis, on allait dehors, on était quand même confortable à 5% d'humidité. Mais là, on parle de régions ici que ça peut monter à 70, 80 et plus d'humidité. 80% d'humidité la nuit à moins de 10 degrés, bien, c'est de l'hypothermie puis un danger de mort. Fait que, tu sais, c'est pas une chose à laisser au hasard de progresser la nuit pour ça aussi. Fait que je pense que, tu sais, Marlène, tout ça, tous les directeurs de course, on tape là-dessus, là, sur le matériel obligatoire, mais c'est vraiment pas une blague, c'est pas un jeu à ce point-là.
Là, justement, tu me donnes une belle transition parce qu'on parlait du matériel obligatoire, puis de l'organisation des courses. Puis c'est tout un défi aussi pour les organisateurs de gérer une course de nuit. Puis on en parlait tantôt, l'horaire de course, vous avez décidé, Marine, de changer l'horaire de départ du 125 l'année dernière, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi vous avez décidé de le changer et puis l'impact que ça a eu à la fois ben, pour vous en tant qu'organisateur, mais aussi pour les coureurs qui prennent
ouais.
le départ?
Oui, ben en fait, pour introduire ce sujet-là, il faut savoir que il n'y aura jamais un horaire parfait pour tout le monde hein, sur une course de longue distance comme ça. Il y a plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer l'horaire d'une course. Oui, il y a l'expérience du coureur. L'avantage du sommeil, de la gestion de la course, mais il y a aussi toute la gestion, nous, de notre côté, de la sécurité, de l'équilibre, de la gestion de nos équipes logistiques pour tous les autres parcours, s'il y en a. Tu sais, ce n'est pas toutes les courses qui ont plusieurs parcours pendant une même fin de semaine. Nous, on a 10 parcours sur la même fin de semaine. Donc, il y a un équilibre à trouver pour être capable de gérer toutes ces courses-là ensemble pendant le même week-end. Il y a aussi des enjeux de cohabitation du territoire avec les autres usagers. Donc, par exemple, dans Charlevoix, avec les randonneurs ou les chasseurs, par exemple. Donc, ça, c'est tous des paramètres qu'il faut qu'on prenne en considération pour essayer de déterminer l'horaire le plus optimal pour tout le monde. Donc, lorsqu'on faisait le départ à 2 heures du matin, il y avait beaucoup d'avantages à ça parce que on venait optimiser nos opérations, si on veut, sur le terrain pendant la journée du samedi, avec nos ravitaillements, avec nos équipes sur le terrain et les autres parcours. Par contre, c'est sûr que c'était très difficile pour les coureurs à ce moment-là parce qu'ils devaient prendre une navette aux alentours de minuit, donc devaient essayer de dormir quelques heures avant minuit avec toute l'anxiété qu'il y a avant
le
de
départ.
Partir à une course.
Ouais.
C'est ça. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'arrivaient pas à dormir avant le départ à 2 heures du matin. Puis, ça les faisait arriver pour la grosse majorité. Là, évidemment, il y en a qui arrivaient en après-midi sur le site, puis en fin d'après-midi, début de soirée. Mais beaucoup arrivaient quand la deuxième nuit était commencée. Et souvent, il faisait déjà froid, moins beau. Les autres parcours étaient terminés depuis longtemps. Il n'y avait plus d'ambiance sur le site. Donc, les coureurs arrivaient en plein milieu de l'autre nuit, fatigués. Donc, ils perdaient 2 nuits de sommeil, devaient ensuite retourner chez eux le dimanche pour, la plupart, recommencer à travailler le lundi avec une fin de semaine qui était complètement hypothéquée, si on veut. Donc, on trouvait ça un petit peu dommage pour l'expérience des coureurs qui ne vivaient pas du tout la course vraiment, qui est sur le site principal, qui n'avaient pas l'occasion de rencontrer d'autres coureurs, qui manquaient de sommeil, qui avaient de la difficulté à gérer ces 2 demi-nuits-là, si on veut. Par contre, l'avantage, c'est que ça leur évitait de traverser une nuit complète, qui est un autre défi complètement différent en soi. Et l'année dernière, on a décidé donc de changer l'horaire de 125 km en faisant un départ l'après-midi, le vendredi, ce qui nous permet, avec un départ le vendredi, de pouvoir traverser toute la première section dans l'arrière-pays, de la Zec des Martres jusqu'au Haut-de-Gorge, lorsqu'il y a très peu de randonneurs sur les parcours. Et lorsqu'il y a moins de possibles cohabitation là, avec les autres usagers. On le sait, là, les sentiers, la randonnée est de plus en plus populaire au Québec, puis les Morios, c'est rendu une destination très prisée des randonneurs. Donc, le samedi, c'est une journée qui est très achalandée maintenant dans Charlevoix. Donc, faire un départ le vendredi, ça nous permet, nous, de pouvoir traverser ce territoire-là sans déranger, puis sans avoir à dépasser des gens non plus. Donc ça, c'était un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que c'est vraiment la plus belle section du parcours, là, le début, le premier tiers, même la première moitié, je dirais. Et on voulait permettre aux gens de le faire le plus possible de jour pour pouvoir voir les belles vues, les beaux paysages et tout ça. Donc, le partir de jour, c'était quelque chose là, qu'on rêvait de faire depuis un certain temps. Puis aussi, ce qu'on voulait, c'était permettre aux gens de pouvoir vivre l'événement. Donc là, maintenant, en arrivant pour la majorité le samedi de jour, les coureurs arrivent lorsque il y a des gens sur le site, il y a de l'animation, il y a des services, ils ont le temps d'aller se reposer, même de se reposer à leur hôtel et de revenir. Le party continue encore pour eux autres. Donc, il y a quelque chose de super intéressant au niveau festif, au niveau expérience, je pense, pour le coureur. Par contre, ça vient avec le défi, puis c'est quand même pas mineur, là, le gros défi de faire toute une nuit très longue dans l'arrière-pays de Charlevoix. Donc, on en est conscient, là, dans les sondages, c'est ressorti. Soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas. Il y en a qui ont adoré le nouveau parcours, le nouvel horaire, je veux dire, ils ne veulent plus qu'on le change, ils ont adoré ça. Mais ceux qui ont dû abandonner pendant la nuit, ceux qui ont trouvé ça difficile la nuit, bien évidemment, pour eux, c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'on essaie cette année de mieux accompagner les coureurs pour mieux les préparer, puis essayer de les aider à vivre ce défi-là, ce challenge de courir la nuit qui, comme Yvan le disait, peut être finalement super cool. Tu sais, puis moi, je ne l'ai pas vécu encore, là, mais tu sais, je l'entends, puis j'ai l'impression que ça peut l'être vraiment. Là, tu sais, vraiment une belle expérience d'introspection, comme René disait, de courir la nuit, mais il faut comme s'y préparer. Puis être bien informé pour ça. Donc, c'est ce qu'on aimerait que les coureurs de l'Ultra Trail Arikana vivent. À la fois un beau départ, reposé, 2 jours, une belle nuit d'introspection, à vivre une expérience unique dans l'arrière-pays de Charlevoix avec d'autres coureurs, puis d'arriver avec une belle fête pour souligner l'accomplissement de 125 km. Donc, c'est vraiment la vision qu'on a avec le nouvel horaire cette année.
Tu disais, Marlene, en plus que il y avait eu un meilleur taux de réussite avec le nouvel horaire. Hein. C'est sûr qu'il y en a
Oui.
toujours qui vont trouver ça difficile, mais qui avaient quand même eu, des gens avaient, il y avait eu plus d'un qui avait terminé. Tu voulais dire
Exactement.
quelque chose, Yvan? Oui.
Ben, 2 trucs. Premièrement, quand un organisateur te demande des choses par rapport à la nuit, si toi tu penses que c'est un défi de courir la nuit, imagine la logistique d'organisateur qui, lui, s'il perd quelqu'un, il faut qu'il le retrouve. S'il y a un blessé, il y a une fracture ouverte, il y a un traumatisme crânien, il faut qu'il aille chercher la personne. Fait que c'est autant un défi, en fait, puis quelque chose qui est un peu anxiogène, compliqué pour l'organisateur que pour le coureur. Puis la nuit, permettez-vous de ralentir. Parce que, tu sais, beaucoup de gens sont des gazelles, c'est pas mon cas, moi je suis une tortue. Je suis content qu'il y ait des gazelles, là. Mais permettez-vous de ralentir. En 2018, Marlène m'a invité sur Arikana. J'avais couru même pas 30 km dans mon été. Puis il a dit, hey, viens donc faire Arikana, mais ça, 2 semaines d'avis. Elle m'inscrit. Ben là, Yannick m'en a parlé sur Pas sorti du bois, je sais pas combien de fois. Il dit, la chose que les gens ont le plus retenue, c'est que tu as marché 125 Arikana. Fait que j'étais avec mon pack-sac. Puis je jase un peu avec les bénévoles, je remplissais mon petit Ziploc, puis j'appelle les stations, j'ai pas arrêté une fois, puis j'ai remarqué un coureur à la fin qui est devenu un ami, que lui, là, dans sa tête, ça se faisait pas marcher sur Arikana. Il avait déjà fini, puis il allait courir. Ben, je lui dis, tu fais comme tu veux, là, t'abandonnes ou tu marches. Fait que le gars, il donnait 40 km, on l'a marché ensemble. Fait que tu sais, avec même pas 30 km de course dans l'été d'un jambe, je suis allé faire Arikana 125 en marchant sans arrêt tout le long. J'ai
Ben.
fini à 11 h quelque chose sur le cut-off, mais plutôt que d'abandonner puis de donner crédit à vos peurs, vos craintes, tout ça, ralentissez la nuit. Permettez-vous de l'apprécier cette nuit-là. Marchez, puis après ça, ben, les sections plus faciles, vous repartirez à courir. Mais c'est faisable d'avancer quand même très, très bien la nuit si on accepte de changer son rythme, changer son mode de pensée par rapport à ça.
Bon, faut dire que Yvan marche très vite.
Quand même,
C'est un très bon marcheur. Non, mais
je sais
c'est un
pas ce
très
que
bon
tu veux
marcheur.
dire.
C'est un excellent marcheur. Soit dit en passant, je pense que tu as une technique de marche qui est assez incroyable aussi,
Efficace,
mais
oui.
bref.
Et René voulait dire quelque chose aussi, je pense.
Ouais, puis je dirais peut-être qu'est-ce qui serait intéressant, c'est dans la mesure du possible de faire de la reconnaissance de parcours. Plus qu'on va aller sur le parcours, qu'on se fait qu'on devient familier avec le parcours, ça fait on vient, c'est ça, plus à l'aise. Puis quand on va venir à la noirceur ou même à la clarté, on va avoir des points de repère. Alors ça, je pense que c'est intéressant.
Ça, c'est super important. Puis pourquoi on court des ultras? On va tous avoir des réponses différentes, mais tu sais, on fait partie un petit peu des gigolos de la société. On est un peu atypique, tu sais. Mais courir la nuit, c'est se challenger sur autre chose. On court des ultras parce qu'on veut se challenger. Tu sais, un 80, plus ou moins technique, ça reste un 80. Mais un 80, quand tu rentres dans la nuit, c'est vraiment particulier. Quand on avait organisé la Solidarité course avec Marlène, il y a de cela quelques années, pour ramasser les sous pour les banques alimentaires, à les plages de nuit, ça partait. On n'y croyait pas, mais les gens s'inscrivaient pour faire leur portion de nuit parce que, tu sais, c'était hot. Je me lève, je mets mon cadran, puis je vais faire mon heure de nuit, tu sais. Fait qu'il y a un autre challenge, il y a un autre défi, il y a un autre niveau d'engagement. Puis je pense que quand on rentre là, on est capable de repousser d'autres limites aussi après, là.
En tout cas, en vous écoutant, je trouve que ça donne envie, en fait. Puis ça fait tomber plein de barrières. On comprend, tu sais, que la préparation, elle est hyper importante, mais je trouve effectivement qu'on a l'impression que ça peut être un beau moment d'introspection. Puis toute la partie observation, compréhension de son environnement, je pense qu'elle est encore plus forte que quand on court 2 jours, on dirait. Mais effectivement, moi, en tout cas, ça donne vraiment envie. Puis Marnie, je pense que tu parlais justement du nouvel horaire, puis que vous vouliez accompagner encore plus les coureurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez mettre en place cette année par rapport à ça?
Bien oui, effectivement. Merci Clémentine de poser la question. Bien oui, en fait, on a, lorsque la balado va être partagée, vous l'aurez probablement entendu déjà parler dans nos communications, mais à partir de cette année, on va accepter les pacers sur le 125 km. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir des pacers sur le parcours de longue distance de l'Ultra Trail Arikana. Jusqu'à maintenant, on avait des pacers seulement sur le 80 km pour la dernière portion, les derniers 15 kilos. Et là, avec le nouvel horaire, l'expérience qu'on a eue l'année dernière, ça nous a amené à réfléchir sur comment on peut essayer, comme le disait Yvan, d'améliorer encore plus la sécurité sur le parcours la nuit, et comment on peut essayer aussi de mieux accompagner les coureurs dans cette épreuve-là qui est à la fois psychologique et physique. On a regardé la possibilité d'avoir des pacers sur les portions de nuit. Et le challenge qu'on a, en fait, c'est que sur un parcours de 125 km, les premiers, les derniers, vont comme creuser un grand écart, là. Donc, ils ne vont pas faire la nuit en même temps. Donc, on avait un choix à faire au niveau de la section de la course où on allait permettre les pacers. Et la section qui a été retenue, c'est la section entre les Morios et les Hautes-Gorges. Donc, c'est une section qui est quand même relativement très courte par rapport à la totalité du parcours. Ça totalise 26 km. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de coureurs qui vont faire cette section-là de nuit. Les premiers vont faire cette section-là de jour, mais à peu près à partir de la milieu du peloton jusqu'au dernier, ils vont faire cette section-là totalement de nuit. Et c'est une section qui, pour nous, au niveau de la sécurité, est quand même plus difficile à couvrir aussi. Plus difficile d'accès, même en VTT, en 4 roues, plus difficile, moins accessible. Il y a un ravito qui s'appelle la chouette à mi-parcours, mais sinon, il y a quand même une difficulté d'accès. Donc, nous, d'ajouter des pacers, des gens qui sont un peu plus frais et dispo, qu'on va aussi accompagner et informer là, avant l'événement, soit dit en passant. Là. Donc, on va demander aux pacers de s'enregistrer à l'avance et on va communiquer des informations importantes avec eux avant la course. Ils vont nous permettre d'avoir, pour nous, des yeux et des oreilles sur le parcours pour nous aider à intervenir si jamais il y a des situations problématiques qui surviennent. Donc des gens, c'est ça, d'assurer une certaine vigilance sur cette section-là et d'accompagner nos coureurs dans cette section-là qui est difficile et qui se fait de nuit. Donc, on est vraiment, vraiment content de pouvoir offrir ça aux coureurs cette année. Puis, c'est aussi une section qui est accessible en véhicule là, pour que les PSE puissent se faire reconduire par des familles et des amis et puis qu'ils puissent être... qu'on puisse venir aller chercher aux Hautes-Gorges. Ce qui était plus difficile dans l'autre section d'après, soit dit en passant, après les Hautes-Gorges, les ravitaux sont très reculés eux aussi, plus difficiles d'accès pour un grand nombre de personnes. Là, on ne permet pas les équipes de soutien dans cette section-là. Puis ça aurait été une trop longue section pour les pêcheurs. Là, ça aurait totalisé environ une cinquantaine de kilomètres. Puis la plupart seraient déjà rendus dans leur deuxième journée, là, rendus dans cette section-là. Donc, de faire ça entre les Morios et les Hautes-Gorges, on pense que ça va vraiment venir aider ceux qui ont probablement plus de difficultés puis moins d'expérience la nuit. Pour nous aussi, c'était une section qui est névralgique au niveau de la gestion de la sécurité sur le parcours.
Génial. En tout cas, Renée, vous ne voyez pas sa face, mais elle lève le pouce. Elle est vraiment contente.
Moi, je trouve que c'était une super idée, sincèrement, là, autant pour l'organisation que les gens. Fait que l'année prochaine, on va être prêt pour le Ultra Arikana 250. On va jusqu'à un bout, puis on revient, puis on peut prendre son pinceur en passant. Voilà.
Toujours des super défis avec Yvan, hein, c'est ça? OK. Ben, écoutez, c'est super, Marlene. C'est une belle annonce. Je pense que les gens... en tout cas, c'est rassurant pour les gens qui vont faire leur premier 125, puis peut-être aussi pour ceux qui avaient un petit peu plus de difficultés à appréhender la nuit. Puis je suis persuadée qu'en ayant écouté la balado aussi, en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné plein de super bons conseils. Puis une autre approche, ce que je disais tantôt, une autre approche de la nuit. Là, je pense que Marlene, tu vas être prête pour refaire une course de nuit.
Oui.
Oui?
Oui, définitivement. Oui, oui, non, c'est sûr que c'est à mon tour, là, je vais le faire, je vais l'essayer. Je pense que, en fait, j'ai pas eu l'occasion, ça s'est pas représenté à moi, c'est pas parce que
pas
je veux pas le faire.
Ouais, c'est ça, ouais. Toi, non. T'étais pas traumatisée mais au point de pas recommencer.
Non, c'est ça, exact, mais je vais y aller avec René et Yvan, puis je pense que je vais en ressortir grandi.
Super. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les trois, c'était vraiment très agréable d'échanger ensemble, c'était très instructif, surtout j'ai trouvé... des très beaux conseils, des conseils très sages, aussi bien René et Yvan, là, je trouvais que on voit que vous faites sûrement beaucoup de méditation tous les deux, en tout cas ça doit beaucoup aider aussi pour passer au travers d'une nuit, donc merci beaucoup à tous les trois, puis j'espère à très bientôt sur les sentiers d'Aricana ou du Québec.
Merci Clémentine.
Merci.
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 Vous venez d'écouter Je suis Lou, le podcast de l'Ultra Trail Aricana du Canada. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre un avis et des étoiles sur votre appli de podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je suis Lou est une production d'événements Aricana. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'Ultra Trail Aricana du Canada sur le site web aricana.info. À bientôt !